Doha, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 25 juin 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Malawi, l'opposant Lazarus Chakwera est en tête de la présidentielle selon un décompte provisoire. Au Niger, 10 travailleurs humanitaires ont été enlevés par des djihadistes dans la région de Tillaberi. En RDC, les autorités sanitaires ont déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays qui a fait plus de 2200 morts depuis août 2018. Covid-19, forte hausse des contaminations aux États-Unis, le pays le plus touché, avec 120 000 morts et plus de 2,4 millions d'infections. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Malawi, l'opposant Lazarus Chakwera est crédité d'une large victoire à la présidentielle qui s'est rejouée mardi. Le point avec Eric Manirakiza.
Le décompte provisoire publié par la Radio-Télévision nationale et le quotidien The Times attribue à Lazarus Chakwera jusqu'à 59% des suffrages contre environ 38% au président sortant Peter Mutharika. Plusieurs opposants des pays voisins comme Musi Maimane en Afrique du Sud et Nelson Chamisa au Zimbabwe ont déjà félicité le chef de l'opposition pour sa victoire sur les réseaux sociaux. Cependant, la commission électorale n'a publié pour le moment que les résultats de 136 bureaux de vote sur les quelques 5000 dans tout le pays. Hier, son président Chifudo Kachale a appelé au calme et à la patience. En février dernier, la Cour constitutionnelle a annulé la réélection de Peter Mutharika pour cause d'irrégularité généralisée et systématique et avait ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Le Malawi est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle après le Kenya en 2017.
Au Niger, 10 travailleurs humanitaires ont été enlevés par des djihadistes alors qu'ils distribuaient des vivres dans un village du sud-ouest proche du Burkina Faso. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon une responsable de l'ONG Action et Programme d'Impact au Sahel, ces 10 agents étaient en train de distribuer des vivres aux populations lorsque des djihadistes armés et à moto sont venus et leur ont demandé de les suivre. Kadidiatou Haruna précise que l'incident s'est produit hier après-midi. C'est la première prise d'otage de ce genre enregistrée dans cette zone où la circulation des motos est interdite depuis janvier. 2 véhicules tout-terrain du Programme alimentaire mondial ont été emportés par les ravisseurs, a ajouté Madame Haruna. Les 10 travailleurs ont été enlevés dans un hameau de la commune de Makalondi, dans la région de Tillaberi, une vaste zone instable et théâtre d'attaques régulières et de plus en plus meurtrières de groupes djihadistes. Un humanitaire allemand et un prêtre italien avaient été enlevés en 2018 dans cette région, située dans la zone de 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Plusieurs véhicules du Comité international de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières avaient été volés par des hommes armés dans cette région.
Le général français Marc Conruit va succéder fin juillet au général Pascal Facon à la tête de la force Barkhane. Il a été chef du bureau Afrique à l'état-major des armées et attaché de défense au Sénégal. Il devra mettre en œuvre les objectifs qui seront fixés par le G5 Sahel lors d'un sommet à Nouakchott fin juin sur la lutte anti-djihadiste. Des pirates ont enlevé un Ghanéen et 5 Sud-Coréens à bord de leur bateau de pêche au large du Bénin, a annoncé le Bureau maritime international. Le Panofi Frontier, battant pavillon ghanéen avec 30 personnes à bord, a été attaqué mercredi. L'identité des ravisseurs n'a pas été déterminée, a déclaré le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Un 500 000 d'élèves du Sénégal ont finalement repris le chemin de l'école aujourd'hui après 3 mois d'interruption due au coronavirus. Les élèves ont tous mis des masques disponibles dans l'établissement, tout comme le gel, a indiqué Abdoul Diop, responsable d'une école de la Médina à Dakar, précisant que le nombre d'enfants dans les classes a été réduit. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont déclaré officiellement ce jeudi la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Elle avait été déclarée en août 2018 et a fait plus de 2200 morts. Nani Talani.
L'épidémie a été la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière des 60 ans de l'histoire de la RDC, a déclaré le ministre de la Santé, Eteni Longondo, lors d'un point de presse avec des responsables de l'OMS. Une autre épidémie de fièvre hémorragique Ebola a été déclarée le 1er juin dans la ville de Mbandaka dans l'Ouest. Les tests ont révélé que ces deux épidémies ne sont pas liées. Le ministère de la Santé a promis de capitaliser sur les leçons apprises et les facteurs de succès dans l'Est pour assurer la réponse la plus efficace possible à Mbandaka dans l'Ouest, a déclaré Eteni Longondo. La deuxième plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée dans l'Est de la RDC est officiellement terminée après 2 ans et aura fait 2227 morts. Elle n'a été dépassée que par celle de l'Afrique de l'Ouest qui a tué 11300 personnes de 2013 à 2016.
Les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada en RDC sont intervenus dans 2 affaires controversées. Dans un communiqué commun, ils estiment que la réforme du statut des magistrats risque d'amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire. Ils ont aussi demandé que le renouvellement en cours à la tête de la commission électorale soit crédible et inclusif. 5 femmes métisses nées au Congo belge dans les années 40 et arrachées à leur mère portent plainte contre l'État belge pour crimes contre l'humanité. Les plaignantes avaient été placées dans une mission catholique comme des milliers d'enfants métisses pendant la période coloniale. L'an dernier, la Belgique a officiellement présenté ses excuses pour les injustices et les souffrances endurées par ses enfants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du rebond des cas de coronavirus en Europe et de l'accélération des contaminations aux États-Unis. Le coronavirus a fait près de 483 000 morts dans le monde. Claire Morin-Gibourg.
Pour la première fois depuis des mois, l'Europe connaît une augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans 11 pays. L'OMS alerte sur la capacité des systèmes de santé déjà sous pression. Aux États-Unis, le nombre de nouvelles infections quotidiennes s'est rapproché hier de ses niveaux records, près de 36 000 en 24 heures. De la Floride à la Californie, le sud des États-Unis est devenu l'épicentre de l'épidémie, avec une hausse des hospitalisations et des malades plus jeunes, entraînant le retour des restrictions. Très durement frappés au début de l'épidémie, les États de New York, du New Jersey, du Connecticut ont décrété une quarantaine pour les personnes venant d'autres États américains où la pandémie accélère. Le seuil des 10 millions de cas dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine. Aux Caraïbes et en Amérique latine, le bilan a dépassé mardi les 100 000 morts, dont plus de la moitié au Brésil.
Une 50aine de migrants à la dérive sur une embarcation en bois ont été secourus aujourd'hui au large de l'île italienne de Lampedusa par un navire humanitaire de SOS Méditerranée. Les rescapés sont majoritairement des Pakistanais et des Érythréens qui ont été ramenés à bord du bateau ambulance de l'ONG à 30 km de l'île à la croisée des zones de sauvetage maltaise et italienne. Le Pentagone a publié une liste de 20 compagnies chinoises, dont le géant des télécommunications Huawei, qu'il estime lié à l'armée chinoise, rapporte la presse américaine. Le spécialiste de la vidéosurveillance Hikvision figure sur cette liste dans une lettre aux parlementaires américains, selon l'agence Bloomberg. Le ministère américain de la Justice a renforcé ses accusations contre Julian Assange en présentant de nouveaux éléments selon lesquels il aurait recruté des pirates informatiques et conspiré pour procéder à des intrusions dans des ordinateurs, notamment ceux d'un pays de l'OTAN. Le fondateur de Wikileaks doit faire face à 18 chefs d'accusation pénale aux États-Unis. Le procès du djihadiste français Tyler Velus du groupe État islamique s'est ouvert ce jeudi devant les assises spéciales de Paris pour des crimes commis en Syrie entre 2013 et 2015. Il a reconnu avoir été en contact avec Abdelhamid Assoud, le cerveau présumé des tueries du Bataclan et des terrasses parisiennes du 13 novembre 2015. L'autorité palestinienne a annoncé la mise en place de projets de plus de 10 millions de dollars dans la vallée du Jourdain, à quelques jours d'une échéance clé pour Israël qui souhaite annexer cette partie de la Cisjordanie. Les projets concernent les secteurs de l'agriculture, la santé et l'éducation, indiqué le Premier ministre palestinien Mohamed Stayeh, précisant qu'ils seraient mis en œuvre dans les prochains jours. La Russie commence à voter aujourd'hui pour un référendum devant permettre à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. La date formelle de la consultation populaire est le 1er juillet. Mais les autorités ont décidé d'ouvrir les bureaux de vote plusieurs jours avant afin d'éviter une forte affluence en raison de la pandémie de Covid-19. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le gouvernement sud-africain a reçu des propositions de bailleurs de fonds, d'investisseurs privés et de partenaires potentiels pour une nouvelle compagnie aérienne nationale qui naîtra des cendres de South African Airways. Les créanciers devraient voter ce jeudi sur le plan de restructuration, mais l'un d'eux, la compagnie aérienne privée Air Link, a lancé une requête judiciaire urgente pour empêcher le vote de se produire. Si le plan est approuvé par les créanciers, les administrateurs souhaiteraient que le gouvernement s'engage à garantir un financement d'ici le 15 juillet. Les autorités zimbabwéennes ont annoncé mercredi une hausse des prix à la pompe de 150% à la suite du lancement d'un nouveau système de change qui a provoqué un effondrement de la monnaie locale au lieu de la stabiliser. Le prix d'un litre de diesel a augmenté de 152% à 62,77 $ zimbabwéens, soit 1,12 $ américains. Celui de l'essence a augmenté de 147% à 71,62 $ zimbabwéens, soit 1,26 $ américains. Pour terminer, l'Organisation internationale du travail indique que des millions de travailleurs migrants confrontés au chômage en raison du Covid-19 pourraient retourner dans leur pays d'origine, notamment en Afrique et en Asie, où leurs possibilités de réinsertion restent très limitées.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La reprise du championnat national des Ligues 1 de football au Mali ne tardera pas. Le comité scientifique a donné son accord au secrétaire général de la fédération via une correspondance. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous explique.
Le comité scientifique dit avoir jugé scientifiquement fondées les mesures proposées par le secrétaire général de la FEMAFOOT pour réduire les risques de propagation du coronavirus. Dans sa correspondance, le comité scientifique a fait un certain nombre de recommandations. Il s'agit de faire des tests de dépistage de COVID-19 à tous les acteurs, notamment les joueurs, l'encadrement et les officiels, 72 heures avant la reprise du championnat. Aussi, tous les matchs se joueront à huis clos. À l'entrée de chaque stade seront installés des dispositifs de lavage des mains au savon. Faire respecter la distanciation physique et le port de masque par les officiels des matchs, s'abstenir des accolades et des poignées des mains avant et après les matchs, désinfecter tous les stades de compétition, prendre la température à l'entrée des stades font également partie des recommandations du comité scientifique. Les regards des acteurs du football sont désormais tournés vers le ministère des Sports pour l'ouverture des stades fermés pour cause de coronavirus depuis mars dernier. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Reprise annoncée également en Afrique du Sud, le gouvernement donne son feu vert pour le retour du championnat de football de première division. Aucune date précise n'a encore été fixée pour le début de compétition, mais les 16 clubs de la Premiership APSA, la ligue la plus riche du continent, vont pouvoir reprendre les entraînements immédiatement, d'après le gouvernement. C'est une première étape pour relancer le championnat sud-africain, doté de 2 millions d'euros de budget mensuel, soit 128 000 euros par club et par mois. Les 16 clubs ont encore 6 à 9 matchs à disputer pour boucler la saison. En NBA, l'arrière d'Indiana, Malcolm Brogdon, et l'ailier de Sacramento, Jabari Parker, ont été testés positifs au coronavirus. Ces dernières semaines, Brogdon a été très actif lors des protestations contre l'injustice raciale et sociale. De son côté, Jabari Parker a indiqué avoir contracté le virus à Chicago il y a quelques jours, où il est actuellement à l'isolation. À 25 ans, l'ailier tente de relancer chez les Kings une carrière NBA censée être prometteuse puisqu'il a été drafté en deuxième position par Milwaukee en 2014, mais vite plombé par des blessures. Les tests positifs de Brogdon et Parker font suite à l'annonce mardi de celui de la star des Denver Nuggets, Nikola Jovic, qui a également contracté le virus en Serbie la semaine passée. La plupart des joueurs et staff ont commencé à passer des tests selon les protocoles mis en place par la NBA, une étape préliminaire avant leur grand départ prévu entre le 7 et le 9 juillet en Floride, où, depuis plus d'une semaine, a lieu une spectaculaire recrudescence des cas de coronavirus, plus de 100 000 selon le dernier comptage.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition, maintenant les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les autorités ont officiellement déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays qui a fait 2227 morts depuis août 2018. Le pays fait face à une autre épidémie de cette maladie hémorragique dans l'ouest, dans la province de l'Équateur. Eddy Issango a joint à Kinshasa le ministre de la Santé, Eteni Longondo.
Je confirme cela. L'épidémie d'Ebola à l'est du pays vient d'être éliminée par les efforts des Congolais et des partenaires. C'est depuis hier, selon les recommandations de l'OMS, c'était le 42e jour, et selon les recommandations de l'OMS, on déclare une épidémie à virus Ebola éliminée après le 42e jour de la sortie du dernier malade de l'hôpital, après le 42e jour de la fin du traitement du dernier malade, dans la partie est du pays. Et je précise dans la partie est du pays parce que nous avons une nouvelle épidémie qui s'est déclenchée depuis bientôt un mois à Mbandaka, donc dans la province de l'Équateur, que nous sommes en train de lutter aussi contre.
Quelles sont les leçons que vous avez apprises lors de cette épidémie qui est la plus longue dans l'est de la RDC?
C'est par rapport aux expériences, parce que l'épidémie à l'est était tout à fait différente des autres épidémies, parce que là, il y avait une forte mobilité de la population. Il y avait aussi une insécurité terrible. Comme vous savez, à l'est du pays, nous connaissons encore des problèmes d'insécurité. Et aussi, il y avait un problème de gestion de partenaires. Parce qu'au début, on avait des problèmes par rapport à la gestion des acteurs qui sont venus nous aider dans la lutte. Comme nous devons désormais coordonner partenaires. Il ne faudrait pas que viennent chacun avec ses activités et dans des villages qu'ils ont choisis eux-mêmes. Il faudrait qu'on puisse le coordonner. La deuxième leçon, c'est par rapport au vaccin. Donc, c'est un vaccin qui a été expérimenté là-bas, le vaccin Merck, qui a été expérimenté à l'est du pays et qui a donné de bons résultats. Et aussi, troisième leçon, c'est le médicament, parce que avec le concours du gouvernement américain, l'INERBE a pu découvrir un produit qui peut soigner le malade à virus à Ebola. Donc ce sont les trois leçons que nous allons répliquer à l'Équateur pour le moment.
C'était Eteni Longondo, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Au Gabon, la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité provoque l'émoi de l'opinion publique. Elle a été adoptée mercredi par l'Assemblée nationale et le Sénat. La nouvelle disposition efface un texte voté l'année dernière qui criminalisait les rapports homosexuels. 48 députés ont voté pour, 24 contre et 25 se sont abstenus. Le débat agite le pays, y compris au sein des églises. Un reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze à Libreville.
Dans un message parvenu ce jour à la VOA Afrique, l'archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, condamne, et je cite, « la scélérate loi adoptée par les députés ». Pour le prélat, ce vote en contradiction avec la majorité des Gabonais pourrait non seulement entraîner des consciences fragiles à assumer les comportements déviants, mais également à exposer les homosexuels à des réactions hostiles. Fin de citation. Les leaders religieux ont été les premiers à dénoncer la dépénalisation de l'homosexualité. La Fédération des assemblées et ministères évangéliques qui regroupe l'ensemble des églises de réveil du Gabon donne aussi de la voix, révérend Louis Badinga, président de cette organisation.
Il était quand même convenable qu'au Gabon, on procède par une sorte de référendum qui pouvait permettre aux uns et aux autres de s'exprimer assez largement sur cette question. Malheureusement, le référendum n'a pas été accepté.
La pilule passe évidemment encore très mal au sein d'une large opinion qui désapprouve la pratique homosexuelle, souvent au nom des pesanteurs socioculturelles ou des convictions religieuses. La réaction de Diane Obon, une jeune fille mère.
J'ai pleuré pour nos enfants. On est à l'école, ils apprennent. Ils vont travailler, on va leur faire de telles propositions. Ceux qui ont les esprits faibles vont s'aider.
Pour les défenseurs des droits de l'homme et particulièrement de la cause homosexuelle, cette loi est conforme au principe du vivre ensemble. Télésphore Obamungum, président de l'ONG Honneur et Dignité.
Ce qui détruit nos coutumes, ce sont des pratiques où on tue les enfants des autres pour des buts fétichistes et autres. C'est ça qui détruit nos coutumes. Non pas ce que les gens font entre quatre murs. Ce qui tue nos coutumes, c'est quand des gens, des femmes, attrapent des grossesses et vont jeter les bébés dans les poubelles. C'est ça qui tue nos coutumes.
L'ONG Honneur et Dignité obtient donc une victoire d'étape dans sa lutte pour le respect des droits humains au Gabon.
Le combat sur la liberté des individus, et en particulier de la communauté homosexuelle qui est marginalisée au niveau de notre pays, et qui est marginalisée au niveau de l'Afrique globalement, fait que cette nouvelle disposition... Ce nouvel état d'esprit m'amène à saluer le respect de la liberté des individus tel que je l'ai toujours.
En tant que garant de la protection des populations, le gouvernement dit avoir proposé cette loi de dépénalisation pour protéger les homosexuels contre toute stigmatisation. Le texte interdit par contre les unions et le mariage de personnes de même sexe. Libreville, Ismaël Obionzé pour VO Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la condamnation à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds et corruption de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est diversement appréciée en RDC. Si certains saluent un pas important dans la lutte contre la corruption, d'autres y voient un règlement de comptes politiques. Ce procès de 100 jours marque-t-il un tournant dans la reddition des comptes? Quel est l'avenir de la coalition au pouvoir dont Kamerhe était l'un des ténors? Nous allons débattre de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le premier essai en Afrique d'un vaccin contre le coronavirus a débuté hier à Soweto en Afrique du Sud. Il a été développé par l'université Oxford et a déjà été testé sur 4000 personnes en Grande-Bretagne. C'est l'un des 6 vaccins les plus avancés dans les différentes étapes de test. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent avec quelques 112 000 infections et 2200 morts. Un reportage de Valérie Hirsch, une de nos correspondantes à Johannesburg.
50 volontaires ont été vaccinés contre le virus du Covid à Soweto. Pas de risque que ces personnes soient infectées. C'est un vaccin inactivé qui devrait permettre de développer des anticorps et de ne pas tomber malade. Cet homme est très content de participer à ce premier essai en Afrique.
I feel a little bit scared, but I want to know.
J'ai un peu peur, mais je veux savoir ce qui se passe avec ce vaccin.
Après la piqûre, une infirmière lui explique de contacter l'équipe en cas d'effet secondaire. Au total, 2000 Sud-Africains vont participer à cet essai, y compris 50 séropositifs dans une étude séparée. Selon des données préliminaires publiées par la province du Cap, les personnes vivant avec le sida auraient 2 à 3 fois plus de risques de mourir du Covid. Si les tests sont concluants, il faudra plus d'un an pour développer ce vaccin qui permettra de protéger les personnes à risque et de mettre fin à l'épidémie. C'est en tout cas ce qu'espère le virologue Shabir Madi de l'université Wits de Johannesburg qui dirige l'essai en Afrique du Sud.
Quand 60 à 70% de la population a développé une sorte d'immunité contre le virus, si une personne est infectée, elle ne pourra contaminer qu'une seule autre personne.
La variole a ainsi été éradiquée en 1980 suite à une campagne internationale de vaccination menée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Dans les mois à venir, le vaccin contre le virus du Covid pourrait être testé sur plus de 40 000 personnes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud. Le professeur Madi explique pourquoi c'est important de le faire en Afrique.
Nous avons nos propres circonstances en Afrique qui sont différentes de la Grande-Bretagne, par exemple. Donc, c'est important de voir si le vaccin marche dans le contexte local. Ces preuves scientifiques seront aussi utilisées par l'Organisation mondiale de la santé dans ses recommandations sur l'utilisation de ce vaccin, en particulier dans les pays en développement. C'est donc essentiel d'avoir des informations souvent venant du continent africain si on veut que les Africains bénéficient du vaccin contre le Covid dans un futur proche.
Pourtant, l'OMS avait déclaré que l'Afrique ne devait pas être un terrain d'expérimentation après la polémique suscitée par deux professeurs français qui avaient déclaré en avril vouloir tester un vaccin sur le continent. Mais pour la spécialiste sud-africaine du sida, Hélène Ries, l'Afrique doit au contraire participer au développement des vaccins, car sinon les pays riches vont les donner en priorité à leurs propres patients.
Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a déjà engagé une discussion au nom de l'Union africaine sur l'accès de l'Afrique au vaccin et il soutient totalement la participation de l'Afrique du Sud à cet essai.
Le vaccin pourrait être prêt en septembre 2021. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La rencontre du 17 juin entre les diplomates américains et chinois a été si discrète qu'il n'y a pas eu de photos publiées. Des sources diplomatiques affirment que c'est la Chine qui était demandeuse de cette réunion. Elle est survenue à un moment de forte tension entre Washington et Beijing sur de nombreuses questions. Steve Reddish fait un état des lieux relaté par Lionel Gaïma.
Kung Flu.
Le mécontentement des États-Unis vis-à-vis de la Chine ne s'arrête pas seulement à sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Hong Kong est une autre pierre d'achoppement, le président Donald Trump.
La décision du gouvernement chinois contre Hong Kong est la dernière d'une série de mesures qui affaiblit le statut fier et de longue date de la ville.
Et le président Trump a menacé de dissocier les relations économiques entre les deux pays, alors que les négociations sur le nouvel accord commercial sont au point mort. La rencontre à Hawaï le 17 juin entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et son homologue chinois Yang Jiechi n'a pas permis de sortir de l'impasse. La Chine a qualifié la rencontre de constructive. Les États-Unis disent attendre de voir une réduction de ce que Washington appelle le comportement agressif de Pékin. Deux jours plus tard, Mike Pompeo tire la sonnette d'alarme concernant la Chine au sommet de Copenhague sur la démocratie.
Elle pousse la désinformation et les cybercampagnes malveillantes pour saper nos gouvernements et creuser un fossé entre les États-Unis et l'Europe en accablant les pays en développement avec les dettes et la dépendance. Nous devons lever les œillères d'or et voir que le défi chinois n'est pas seulement à nos portes, c'est dans chaque capitale, dans chaque arrondissement, dans chaque province. Chaque investissement d'une entreprise publique chinoise doit être considéré avec suspicion.
Pékin accuse Pompeo de vouloir creuser un fossé entre la Chine et les autres nations. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Pompeo a de nouveau porté des accusations sans fondement contre la Chine dans son discours vidéo. Il tente de semer la discorde entre la Chine et d'autres pays. La Chine s'y oppose fermement. Les remarques de ce politicien américain sur la Chine sont contraires aux faits de base. Cela ne contribue à rien, mais expose davantage la mentalité de guerre froide et des préjugés profondément ancrés.
De la mer de Chine méridionale à la frontière avec l'Inde, la Chine montre ses muscles lançant un sérieux défi à Washington. Michael O'Hanlon de la Brookings Institution, un cercle de réflexion américain.
Il y a des endroits, à commencer par Taïwan et au-delà, où une Chine de plus en plus puissante va vouloir montrer ses muscles et nous allons devoir trouver des moyens intelligents de la repousser. Mais j'espère d'une manière qui ressemble au judo, à la lutte plus qu'au boxe ou au combat à l'épée, en d'autres termes, repousser sans finir dans des affrontements violents.
Pour le moment, la Chine et l'Inde ont accepté une escalade après un affrontement à leur frontière commune la semaine dernière qui a fait 20 morts dans les rangs des soldats indiens.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.